voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison radio, Kaizen donne la parole à ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour vivre pas à pas le changement nécessaire à nos sociétés. Jean-Pierre Berland est agronome et économiste, ancien directeur de recherche en sciences économiques à l'Institut national de la recherche agronomique. Je l'ai rencontré suite à l'une de ses conférences sur le thème de la génétique.
Bon, je suis Jean-Pierre Berland, donc je suis retraité, digne retraité. J'étais directeur de recherche à l'INRA de deuxième classe, c'est comme ça que ça s'appelait. Mais on a supprimé la deuxième classe, si vous voulez. Maintenant, on est directeur de recherche. Tout est dans la sémantique, comme d'habitude. Et donc voilà, je suis à la retraite, j'ai fait une longue carrière à l'INRA parce que j'avais des idées qui plaisaient pas beaucoup à la direction générale de l'Institut, et puis je dirais plus généralement aux gens du département de génétique et d'amélioration des plantes. Alors j'ai travaillé sur un axe qui était, c'était sur la question du travail agricole, saisonnier, du travail agricole en fait, des immigrés dans le monde rural. Et l'idée étant derrière qu'on allait vers un modèle où on était depuis un certain temps dans un modèle en quelque sorte californien. Modèle californien, ça veut dire un modèle de grandes entreprises capitalistes qui fonctionnent à coup de vagues de main-d'œuvre et immigrés, c'est-à-dire qui sont très spécialisées. Et comme elles sont très spécialisées, les besoins de main-d'œuvre sous ces exploitations augmentent de façon extrêmement brutale et pour une période de temps très brève. Si je prends un exemple très concret, je prends l'exemple d'une production industrielle de cerises. Quelqu'un qui a 10 ou 15 hectares de cerises, eh bien, aura besoin pendant la période de récolte de cerises. Disons, pour un type de cerise, ça dure, mettons, 10 jours, et il a besoin d'en gros 900 heures de travail, 950 heures de travail à l'hectare. C'est absolument énorme. Le reste de l'année, le travail sera fait en l'espèce de quelques dizaines d'heures. Donc, si vous voulez, vous avez besoin à un moment donné, et vous ne pouvez pas vous amuser à entretenir 30 personnes pour récolter un hectare ou 20 personnes pour récolter un hectare de cerises pendant toute l'année. Donc, vous allez avoir recours, à partir du moment où vous êtes spécialisé dans une culture, vous allez avoir recours à de la main-d'œuvre migratoire, à des vagues successives de main-d'œuvre migratoire. Hein, et en fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que presque toujours. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la culture du riz en Camargue, au moment du repiquage du riz, une opération qui a disparu depuis, au moment du repiquage du riz, c'était jusqu'à 10 000 à 12 000 ouvriers agricoles qui arrivaient d'Espagne, mais aussi d'ailleurs d'Italie, pour faire cette opération de repiquage du riz.
Est-ce qu'on constate la même chose en Asie, par exemple, où le repiquage du riz se fait toujours? Est-ce qu'on fait aussi appel aux immigrés pour venir repiquer les rizières en Thaïlande?
Non, parce que je ne crois pas. Alors d'abord, maintenant, il y a des machines à repiquer le riz. Hein. Bon, je ne sais pas à quel point j'en ai vu fonctionner, en tout cas au Brésil, qui sont des machines extrêmement efficaces. Donc, il y a ces besoins. D'autre part, si vous voulez, la culture du riz dans ces zones-là, on peut faire jusqu'à 3 récoltes de riz dans l'année. Donc, en fait, c'est une espèce de culture continue, donc qui peut être assurée avec la main-d'œuvre familiale au sens large, les ascendants, les parents, plus de l'aide à côté, etc. Donc, si vous voulez, les besoins de main-d'œuvre n'ont pas cette brutalité qu'ils ont dans le système hyper spécialisé de monoculture dans lequel nous sommes. Donc c'est pas du tout la même chose. Si je prends un autre exemple, si vous voulez, la culture de la betterave à sucre, vous savez qu'il y avait une opération qu'on appelait le démarriage, puisqu'il y a 3 germes dans un grain, dans une semence de betterave, et qui donne 3 pouces. Et donc une opération au mois de mars consiste à démarrer, c'est-à-dire enlever 2 pouces et laisser la dernière, de façon à avoir qu'une seule graine, qu'une seule plante. Sinon il y en aurait 3, ça ne marcherait pas. Et donc on faisait venir, c'est un travail très précis, hein, qui nécessite beaucoup d'habileté si vous voulez. En plus, je ne sais pas si vous voyez le mois de mars dans le nord de la France, c'est quand même plutôt boueux et plutôt froid et plutôt pluvieux, etc. Donc on faisait venir une main-d'œuvre qui était bretonne, main-d'œuvre belge, main-d'œuvre polonaise pour assurer cette opération. Puis depuis maintenant, on a créé, grâce aux généticiens, une main-d'œuvre, des betteraves monogermes génétiques. Donc il n'y a plus besoin de main-d'œuvre, on a supprimé la main-d'œuvre. Donc ce qu'il faut voir, c'est que cette nécessité du recours à cette main-d'œuvre migrante dépend, ce n'est pas quelque chose qui est permanent, ça dépend des conditions techniques de production. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme dans le cas de la betterave, cette pointe de main-d'œuvre au moment du démarrage peut très bien disparaître à la suite d'un changement technique qui permet d'avoir, en l'occurrence, des monogermes génétiques. Donc cette main-d'œuvre, le besoin de cette main-d'œuvre disparaît. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de voir comment la recherche agronomique a toujours été du côté, plutôt que du côté des ouvriers, a toujours été du côté du manche, du côté des patrons, du côté des gens qui possèdent le capital. Je pourrais prendre un autre exemple qui est absolument, disons, édifiant là-dessus, c'est la mécanisation de la récolte de la tomate en Californie. Quand vous récoltez manuellement, il vous faut des plantes, des productions de tomates qui est étalée, parce que vous n'allez pas récolter en une semaine, il vous faudrait une quantité massive de main-d'œuvre pour récolter en une semaine, donc vous avez besoin d'avoir des plantes qui produisent de façon étalée. Mais si vous récoltez à la machine, il vous faut avoir des plantes dont les tomates mûrissent tout en même temps. C'est complètement différent. Et puis c'est extrêmement compliqué puisque vous avez des problèmes mécaniques très très sérieux. Il faut des tomates qui ont une peau très épaisse, très très dure pour résister aux chocs mécaniques. Et ensuite l'opération la plus compliquée qu'il a fallu résoudre, c'est l'opération à la fois il faut que les tomates soient fermement attachées à la tige pour pouvoir être, disons, levées par la machine. Mais il faut en même temps que ces tomates puissent se détacher de leur pédoncule relativement facilement au moment où la tomate, le fruit, va être dans l'ébène pour être transportée à la conserverie. Donc c'est un problème, c'est un vrai casse-tête. Enfin, toujours est-il, si vous voulez, que pour liquider la main-d'œuvre mexicaine qui assurait la récolte manuelle des tomates, c'était quelque chose comme 50-60 000 personnes quand même qui venaient pour assurer la récolte pour le ketchup américain, ce genre de saloperie. Eh bien, donc, cette main-d'œuvre, pour la liquider, si vous voulez, les travaux ont commencé en 1948. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en 1964, lorsque César Chavez, le leader syndical, a réussi à organiser les ouvriers mexicains qui assuraient les récoltes en Californie, ces récoltes de... lorsqu'il a réussi à les fédérer, eh bien, en l'espace de 4 ans, la récolte s'est entièrement mécanisée. C'est-à-dire plus besoin des Mexicains. Les Mexicains ont été jetés dehors. C'est-à-dire que là aussi, vous avez la recherche agronomique qui est intervenue comme briseur de grève.
Mais donc en fait, on est en train de complètement contraindre les lois du vivant pour répondre à des exigences humaines.
Absolument, je veux dire, là où ça prend des proportions absolument inouïes, c'est la législation semencière. Les législations semencières, maintenant, tenez-vous bien, exigent que les plantes soient homogènes et stables. Les semences doivent être... Les plantes homogènes, ça veut dire que les plantes doivent être toutes les mêmes. Évidemment, il peut y avoir des défauts de fabrication près, comme dans toute fabrication en série. Hein. Donc, il faut que les plantes soient toutes les mêmes. Et stables, il faut que soit la même plante, le même type de plante qui est vendue d'une année après l'année. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous achetez des variétés de n'importe quoi, de ce qu'on appelle une variété de blé ou d'orge, de maïs, etc., en réalité, si vous observez ce qu'on appelle des variétés comme le nom l'indique, caractère de ce qui est varié, diversité, n'est-ce pas ? Eh bien, en réalité, vous avez sous les yeux des plantes qui sont toutes les mêmes. Ce sont des quasi-clones. Et ça correspond à cette définition, par la loi, plante homogène et stable. Mais ça correspond à des besoins industriels. Ça, c'est l'industrie, c'est possible. Mais le vivant, par nécessité, par nature même, par un être, les êtres vivants sont divers. Il n'y a pas de diversité chez les êtres vivants, ils sont morts. Je veux dire, on le sait très bien, quand des populations sont fondées sur un tout petit nombre d'individus, c'est des populations qui vont disparaître. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de variabilité génétique pour pouvoir faire face aux aléas divers et variés de l'environnement, de la prédation, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, on impose donc les plantes d'être toutes les mêmes. Alors après ça, vous avez les agronomes de l'INRA ailleurs qui versent des larmes de crocodile en disant « Oh là là, la diversité fout le camp ». Bien sûr, les gars, vous cultivez des clones. Bon, comment voulez-vous que la diversité puisse évoluer ? Et deuxièmement, il faut que ce soit stable. C'est-à-dire que ça ne change pas. Or, la propriété des êtres vivants, c'est qu'ils changent. Eh oui, c'est comme ça. D'une génération sur l'autre, ce n'est pas exactement les mêmes. Ce n'est pas les mêmes combinaisons. Et ça, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'on a mis en place une législation qui est d'une absurdité totale puisqu'elle se heurte, elle s'oppose exactement aux propriétés les plus fondamentales des êtres vivants. C'est extraordinaire. Ça veut dire, mais ça ne gêne pas mes collègues agronomes. Hein, je veux dire, ils sont à l'INRA, ils sont au chaud dans leur laboratoire. Je veux dire, ça, discuter ça, ce n'est pas de leur domaine. C'est le domaine du politique, de ceci. Eux, ils sont au-dessus de ça. En réalité, c'est l'INRA qui a mis en place dans les années 50 et même avant, qui a mis en place ce système de variété homogène et stable. Alors là aussi, le truc extraordinaire, c'est les abus de langage. Parce que vous parlez de variété homogène et stable, vous avez sur les yeux des clowns. Non mais attendez, je veux dire, et eux, ça ne les gêne pas. Hein, ça ne gêne pas la contradiction qu'il y a, si vous voulez, de parler de variété alors qu'on a affaire à des plantes qui sont homogènes et stables. Non. Il n'y a pas de contradiction. Donc on ne voit rien. Dans la mesure où vous continuez à désigner les choses parce qu'il y a exactement leur contraire, comment voulez-vous vous rendre compte de la réalité ?
Et pourquoi est-ce que l'homme accepte cette réalité-là ? C'est ce champ sémantique qui va complètement obstruer les consciences et nous empêcher de réfléchir. Qu'est-ce qui fait que c'est cette logique du profit qui a la main mise sur l'ensemble du vivant sur la planète alors qu'on sait pertinemment qu'on court à notre perte ?
Mais elle se déchaîne, hein, je veux dire, et les gens ne s'en sont pas rendus compte. Si vous voulez, les conditions qui ont créé la possibilité de cette législation, plante homogène et stable, de créer un droit de brevet sur le vivant, un droit de propriété sur le vivant, d'en finir avec la gratuité de la reproduction, de séparer cette chose effarante quand même. Je veux dire, quand vous pouvez, en agriculture, quand vous produisez, vous reproduisez. Donc le but de notre société, c'est de séparer la production de la reproduction et de faire de la reproduction le monopole de qui ? C'est quand même une question intéressante. C'est le monopole de ceux qui s'appelaient eux-mêmes, jusqu'en 1948-1949, aux États-Unis, les fabricants de pesticides. Ils s'appelaient eux-mêmes les fabricants de poisons économiques. Alors évidemment, en 1949, lors de leur congrès de San Francisco, il y a eu un appel au peuple des fabricants de DDT et autres saloperies pour leur demander leur suggestion pour changer de nom. Parce que c'était quand même un peu encombrant de s'appeler l'industrie des poisons économiques. Donc maintenant, ils sont l'industrie de la protection des plantes, du phytosanitaire et ce genre de bobards. Mais bon, ce sont des empoisonneurs, point final. D'ailleurs, très bien l'avait dit en 1964, en présentant le livre de Rachel Carson, le président de l'Académie des sciences en France. Bon, maintenant, l'Académie des sciences est complètement entre les mains des biologistes moléculaires qui n'en ont rien à foutre, ils ne s'intéressent pas à la diversité. De toute façon, ils ne s'intéressent à rien d'autre que leur bricolage génétique. Donc, ils ont une vision tellement étroite, si vous voulez, du monde vivant qu'ils n'y comprennent littéralement plus rien.
Comment vous avez réussi à faire carrière professionnelle dans l'INRA en ayant une vision ?
Non, j'ai pas fait carrière. D'abord, j'étais un chercheur tout à fait tolérable pendant très longtemps. Les choses sur lesquelles j'ai pu travailler bon, étaient, disons, il pouvait y avoir des controverses, mais bon, c'était des travaux de recherche, disons, ordinaires. Mais là où ça a commencé à chauffer, c'est lorsque je me suis attaqué donc, à ce fameux maïs hybride, là, bon, si vous voulez, dont je parlais, c'est donc, qui a cette propriété que l'agriculteur ne peut pas le ressemer. Ah, et on vous explique que c'est la nature qui le veut. Bon. Donc, en tant qu'économiste, l'esprit un peu mal tourné, et puis il y a une certaine culture politique, sachant très bien que les classes dominantes de tout temps se sont appuyées sur le fait que c'est des phénomènes supranaturels, disons, assuraient leur position de pouvoir, justifiaient leur position de pouvoir. Alors, c'était le sang bleu des aristocrates de l'Ancien Régime, c'est Dieu qui leur avait conféré cette puissance et le droit de dominer le monde. Là, maintenant, si vous voulez, avec la bourgeoisie, c'est le fait que si les bourgeois sont au pouvoir, c'est parce qu'ils ont les bons gènes. En gros, l'explication naturaliste est celle-là, c'est qu'on est plus intelligent que les autres et donc on est devenu au-dessus. Et c'est donc une explication purement naturaliste. Ça n'a rien à voir avec les rapports sociaux et la férocité des rapports sociaux et leur capacité d'imposer leur domination. Non, on a une explication naturelle, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Ils sont au pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Ça n'a rien à voir avec, disons, une oppression, un truc comme ça. Donc voilà, il y a toujours cette explication fondamentale, si vous voulez, liée à la nature. Et donc, c'est une chose que je savais, si vous voulez, en tant qu'économiste un peu, disons, marxisant, malgré tout. Et donc, quand on m'a expliqué que, ben, ma foi, l'agriculteur pouvait plus semer le grain récolté, que c'était hélas parce que c'était la nature qu'il voulait, plutôt que de me dire que c'était Dieu ou autre chose, là, j'avais quelques doutes. Et donc, à ce moment-là, ces doutes, si vous voulez, se sont accentués au fil du temps. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Richard Lewontin, qui est professeur de génétique des populations à l'université Harvard, et donc qui m'a accueilli dans son laboratoire. Et donc là, c'est là que dans ce laboratoire, qui est un laboratoire absolument extraordinaire sur le plan intellectuel, bouillonnement intellectuel permanent, que j'ai pu petit à petit donc essayer de disséquer d'où venait cette histoire de cette croyance depuis un siècle qui est propagée par les sélectionneurs, qui est propagée par les agronomes, qui est propagée absolument par tout le monde, chose que tout le monde croit à ça, mais dur comme fer, qu'il y a un phénomène naturel, l'hétérosis, alors toujours un nom latin, ou la vigueur, qui est confondu avec la vigueur hybride, qui fait qu'on a fait du maïs hybride. C'est tout à fait récemment que j'ai enfin, au bout de 35 ans, je me suis aperçu que, ou 30 ans, que la mystification commence avec la première phrase de l'article fondateur de la revue. Et là maintenant, j'ai la preuve, si vous voulez, une fois que on lit très attentivement avec le regard que j'ai là-dessus, on se rend compte que le type ment. Le type qui fonde la technique, qui est célébré, Georges Schull, très grand généticien, ancien, pendant 10 ans, président de l'Association américaine des généticiens, etc., etc. Je veux dire, un homme couvert de gloire et célébré par toute la profession. Eh bien, simplement, on le célèbre tout simplement parce qu'il a créé un droit de propriété sur le vivant avec sa technique et qu'il a permis de faire des plantes parfaitement uniformes. Mais non pas parce que ça a eu la moindre utilité. Au contraire, si vous voulez, on aurait pu sélectionner les plantes en allant beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, améliorer les plantes beaucoup plus rapidement que par la technique qui a été utilisée, qui est une technique longue, coûteuse, littéralement extravagante, si vous voulez, qu'il a fallu presque 20 ans pour réussir à amener au succès. Donc on a sacrifié littéralement l'intérêt public et l'intérêt des agriculteurs pour le profit des sélectionneurs, tout en racontant que c'était la seule façon technique qui permettait d'améliorer le maïs. Enfin, bon, qui peut croire un bobard pareil, sauf des scientifiques.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Le gros problème de tout ça, c'est que la plupart des scientifiques ont une culture politique ou une culture sociologique ou même une connaissance de l'histoire de leur propre discipline. C'est ça qui est absolument inquiétant. Ils ont une connaissance de l'histoire de leur propre discipline qui est proche de zéro. M'étendre trop longuement, je me rappelle d'avoir eu un débat au début des fauchages de plantes transgéniques, si vous voulez, avec une collègue de l'INRA, et qui, en gros, si vous voulez, elle ne savait pas que l'origine de la biologie moléculaire, c'était un transfert génétique. Elle ne savait pas ça. Donc elle tenait des propos qui étaient incohérents. Donc il a fallu que je lui explique, écoutez, chers collègues, la première preuve, tout a commencé avec une espèce de manipulation génétique et un transfert en quelque sorte de gènes, qui était qu'on avait pris un pneumocoque qui était non virulent mais vivant, et qu'on injectait à une souris en même temps qu'un pneumocoque virulent mais tué. Bon, et là, il se produisait quelque chose d'absolument extraordinaire que les lois de la génétique étaient absolument incapables de comprendre, de l'époque, je parle des années 30, qui était que les souris auxquelles on injectait cette solution-là, elles crevaient du pneumocoque. C'est-à-dire qu'il y avait eu transfert de la virulence du pneumocoque tué au pneumocoque mort. C'était absolument inexplicable. Et le type qui a commencé là-dessus, lorsqu'il a appris ça, ça allait contre tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il savait. Et c'est là que la science peut être aussi souffrance. Il est même tombé malade pendant un an. Il est obligé de se mettre en maison de repos. Parce que le monde s'effondrait. Il faut voir comment fonctionnent les scientifiques. Ils ont une conception du monde. Et quand cette conception du monde s'effondre, c'est vraiment une souffrance. Et donc, il est retourné dans son laboratoire après un an. Et à ce moment-là, il n'a eu de cesse que d'expliquer d'où venait ce facteur transformant. Et à l'époque, on croyait que c'était les protéines qui portaient l'hérédité. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va purifier les chromosomes, enlever les protéines des chromosomes. Et il arrive au fait que vers 1943-1944, il arrive à des protéines, des chromosomes qui ont été purifiés à 98,5% de leurs protéines. Et pourtant, ce phénomène le facteur transformant est toujours là. Et là, il dit, la seule solution, c'est que c'est l'ADN qui transmet l'hérédité et pas les protéines comme vous le croyez. Mais il n'ose pas, il dit, mais il me reste toujours 2% ou 1% de protéines, donc il n'est pas encore entièrement ça. Il aurait eu le prix Nobel s'il avait été plus affirmatif. Et il a fallu attendre 1951 pour qu'avec des marqueurs radioactifs, on a marqué l'ADN, et là on s'est aperçu qu'en effet, c'était l'ADN qui portait l'hérédité. Le patrimoine génétique qui portait l'hérédité. N'ont même pas conscience de l'histoire de leur propre discipline. Alors bon, maintenant je ferme la digression. Donc si je reviens, moi, j'ai toujours une démarche historique, regarder les choses dans leur perspective, parce que sinon on ne les comprend pas. On ne comprend pas d'où viennent les problèmes, on ne comprend pas pourquoi ils se posent à un moment de telle et telle façon, pourquoi ça se développe de telle et telle façon et autres. Et donc, dans le cas du maïs hybride, j'ai commencé à poser ce problème-là de point de vue historique, donc j'ai commencé à regarder l'histoire de la sélection. Et c'est là que j'ai trouvé que, en fait, ce qu'on appelle le maïs hybride, c'est tout simplement l'extension au maïs de la vieille méthode de l'isolement, méthode qui date donc, qui est codifiée en 1836, mais qui est pratiquée dès le début du 19e siècle. C'est-à-dire que, de façon purement empirique, les fermiers capitalistes anglais constatent que les plantes de blé et d'orge avoine, c'est-à-dire les céréales qu'ils cultivent, constatent que les plantes conservent leur caractère individuel d'une génération à la suivante. Or, ils cultivent des variétés. C'est-à-dire une variété faite de plantes qui sont différentes les unes des autres, chacune conservant ses caractères individuels. Et à ce moment-là, en 1836, ils vont faire le raisonnement complet. Jusque-là, ça s'était limité à des essais de ci, de là, de briquet de broc. Mais ils vont faire le raisonnement complet qui consiste à dire, puisque nous cultivons des plantes qui sont toutes identiques, qui conservent leur caractère individuel d'une génération à la suivante, nous allons remplacer les variétés que nous cultivons par la meilleure des plantes que nous avons réussi à isoler au sein de la variété. Nous isolons cette plante pour quoi faire ? Pour la reproduire, pour la multiplier, puisqu'elle se reste à l'identique. Et donc, je vais avoir à ce moment-là une espèce de clone, c'est comme ça que j'appelle, ou un quasi-clone, et je vais remplacer la variété, sa diversité, par le meilleur des clones que j'ai réussi à extraire de la variété. Vous voyez bien que cette technique-là, elle marche à tous les coups. Il y a toujours un gain à remplacer, disons, une population, une diversité, une variété de n'importe quoi, par des copies du meilleur n'importe quoi, extrait de la variété. Il n'y a pas besoin de justification. Donc c'est la technique qui vous explique pourquoi tous les champs de blé à travers la France, de blé, d'orge, d'avoine, de tout blé, sont tous les mêmes, en dehors du fait que juridiquement c'est devenu nécessaire. Hein. Mais pour le maïs c'est un peu différent, c'est pas comme le blé. Le maïs, il ne conserve pas ses caractères individuels d'une génération à la suivante, tout simplement parce que les fleurs mâles et les fleurs femelles sont séparées. Le maïs, c'est comme les mammifères, hein. Les enfants d'un couple de mammifères sont différents des parents. Ça, il n'y a rien à y faire, c'est un mélange entre les caractères des deux parents, mais ils ne sont pas les deux des parents. Bon. Le blé, c'est différent, il n'y a qu'un papa et une maman, le papa et la maman sont confondus, donc ça donne des plantes qui sont toutes les mêmes. Le maïs, lui, là, c'est fleurs mâles et c'est fleurs femelles qui sont séparées. Donc la descendance, c'est différent. Donc ce que vous avez sélectionné la technique qui est utilisée, la technique dite des hybrides, c'est la technique qui consiste à fabriquer au hasard donc une population modèle réduit, si je puis dire, de la population initiale, en faisant une série d'opérations qu'on appelle les autofécondations, vous en faites pendant 6 ans, et ensuite vous croisez ce que vous avez obtenu des lignées pures pour faire quoi? Alors on vous dit, ça permet de faire des hybrides. Mais non! Les plantes que vous obtenez n'est pas plus ni moins hybride que n'importe quelle plante du champ originale. Non, la plante que vous faites, c'est une plante qui est maintenant reproductible. Et reproductible en plus par le sélectionneur et lui seul, parce qu'il est le seul à détenir les deux lignées parentales qui permettent de fabriquer cette plante reproductible. Donc ils ont préféré, au lieu de raconter la vérité que c'était ça qu'ils faisaient, et qu'il n'y a pas besoin de justification pour faire ça. Après tout, il y a une très grande diversité pour le maïs, et pourquoi pas essayer cette technique-là. Mais évidemment, ça ne marche pas. Vous refaites l'opération à partir de la même variété. Vous allez obtenir la même plante. Donc vous êtes dans une impasse, si vous voulez. Et toute l'histoire du maïs hybride, c'est ça. C'est-à-dire que depuis maintenant 60 ans, 70 ans, j'ai pu montrer que tous les progrès fabuleux du rendement qui ont été multipliés par 4 ou 4 fois et demi depuis 50 ans sont liés à l'amélioration des populations. Et tout ça, ça coûte quand même, il faudrait quand même, si c'est à entendre, écouté par des maïsiculteurs, qui se rendent compte quand même qu'ils payent quelque chose comme 150, 160, 170, et peut-être bientôt plus, disons, euros, leur dose de semences pour leur hectare de maïs. C'est-à-dire que pratiquement 10 à 15% de revenus de la culture du maïs, ça va dans les poches du semencier. Alors que s'ils faisaient leurs propres semences, ça leur coûterait 10 fois moins cher.
Mais vous me disiez aussi que finalement c'est dans l'équilibre qu'on arrive à trouver une stabilité et une force dans l'équilibre des écosystèmes grâce à la diversité. Est-ce qu'on peut parler un peu de diversité ensemble? Parce que le problème aujourd'hui, c'est ces monocultures et c'est vouloir justement reproduire à l'identique sur des hectares entiers.
Oui, il y a une très belle métaphore pour cette importance de la diversité. Quelque chose que j'ai utilisé lorsque j'ai fait des présentations dans des collèges. C'est quelque chose qui a été mis au point par la NASA. C'est un écosystème extrêmement, extrêmement simplifié. C'est une boule de verre qui est pleine d'eau. Dans cette eau, il y a des bactéries, il y a des algues et il y a des crevettes. Donc les crevettes, disons, elles respirent, elles rejettent du gaz carbonique. Elles mènent leur vie, donc ensuite les bactéries vont transformer ça, si vous voulez. Ensuite, donc, ces bactéries, donc la photosynthèse, le gaz carbonique qui est engendré par tout ça, va être donc fixé par les algues grâce à un apport extérieur de lumière. La photosynthèse apporte de la lumière qui va permettre aux algues de mettre en œuvre leur photosynthèse. Et les bactéries vont rebouffer, les crevettes vont bouffer les algues et continuer ce cycle. Donc vous avez un cycle complet qui vous montre, là je pense, et de façon parfaitement claire, qu'il n'y a pas d'être vivant tout seul. C'est pas possible, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est un système d'interaction qui permet à ces êtres vivants, mis ensemble de façon artificielle, certes, mais avec une source extérieur d'énergie, de pouvoir se reproduire, de pouvoir rester en vie. Alors, ce qui est très intéressant d'un point de vue métaphorique, à mon avis, c'est que l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre pour les ingénieurs qui ont mis au point cette chose-là, ça a été de trouver des crevettes qui ne se battent pas. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la planète. Vous avez une métaphore d'une planète dans laquelle les humains sont, n'est-ce pas ? Ils ont un apport de lumière extérieure, ils sont un écosystème beaucoup plus complexe, mais il n'empêche que la même leçon peut être tirée de cet écosystème-là, on peut le prolonger sur la Terre. Je veux dire, tant que les hommes continueront à être dans un phénomène de concurrence et de lutte, de guerre et autres, je veux dire, la planète sera foutue. Je veux dire, et le capitalisme dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, ce capitalisme mondialisé, nous conduit exactement à cette catastrophe. C'est pas la concurrence qu'il faut mettre en place, c'est pas la guerre de tous contre tous, c'est le partage. C'est le travail en commun, c'est l'activité, disons, ludique avec les êtres vivants. Ce n'est pas la volonté de dominer le vivant. Tout ça, c'est absurde. Cette agriculture dans laquelle nous sommes est littéralement odieuse et, sur le plan biologique, correspond vraiment à des idées qui sont totalement dépassées. Le seul problème, bien sûr, c'est que nos instances politiques, y compris notre cher Premier ministre et notre cher Président de la République, n'ont strictement aucune conscience du désastre qui est en train de se préparer.
Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à toutes ces jeunes générations qui opèrent petit à petit un retour vers la Terre ? Je vois beaucoup de gens qui développent des projets en maraîchage, en polyculture, en arboriculture, en permaculture, en agroécologie.
Oui, si vous voulez, c'est quand même plus intéressant, à mon avis, de faire ça que de travailler au marketing. J'ai quelqu'un de ma famille qui travaille au marketing des bulles de champagne. Donc, le grand insight, comme on dit dans ces milieux-là, c'est de découvrir, d'imaginer que sa marque de champagne a des bulles qui sont 30% plus petites que d'autres. Donc, avec ça, vous allez faire une campagne de publicité, etc. Enfin, je veux dire, c'est tellement dérisoire, tellement absurde, tellement imbécile que je comprends que beaucoup de jeunes disent « Non, mais basta de ça ». Je préfère cultiver la terre, d'être en contact avec la vie, d'être en contact avec d'autres gens, de partager plutôt que faire ce genre de métier à la con. Mais je veux dire, vous comprenez, c'est la différence qu'il y a entre métier et job. Je veux dire, être agriculteur, être paysan, c'est un métier. C'est un vrai savoir. C'est comme être instituteur, c'est comme être menuisier, c'est comme être artisan et autres. C'est un vrai savoir. Ou même parfois, on peut dire que des ouvriers d'usine qualifiés ont un vrai savoir, un vrai savoir-faire, si vous voulez. Ils sont en dialogue avec la matière. Mais disons, la plupart des métiers qu'on offre maintenant, je ne sais pas, je crois que le tiers des jeunes maintenant font des études de marketing, de vente, tu vois. C'est des métiers de merde, enfin, il faut bien dire ce qui est. Je veux dire, on parle tout le temps des caissières de supermarché, mais elles font au moins un travail, disons, qui peut s'expliquer, qui a une certaine dignité, mais les autres, franchement.
Quels seraient les bons métiers ?
Je pense que c'est tous les métiers qui permettent aux gens d'avoir un vrai contact avec la réalité. Pas d'être dans ces choses d'abstraction, si vous voulez, de gestion, d'argent, de choses comme ça. Qu'il y ait de la gestion, c'est nécessaire, bien sûr, à un moment donné, à partir du moment où les entreprises sont trop grandes. Mais en fait, la gestion peut être faite au sein de collectifs beaucoup plus petits et de façon parfaitement démocratique. Ce qui est terrible dans le monde dans lequel nous sommes, c'est que l'institution principale de notre société démocratique, c'est l'entreprise capitaliste. Déjà là, vous vous rendez compte que c'est la chose la plus antidémocratique qui puisse exister, puisque avec le patron qui décide et les autres qui ferment leur gueule. Donc comment voulez-vous qu'une démocratie puisse fonctionner alors que la base même de cette démocratie, c'est quelque chose qui est antidémocratique ? Donc le problème politique fondamental, il est là. Il est comment revenir à reconstruire des groupes où régneraient de vraies formes de démocratie et de partage. Mais c'est pas avec leurs grandes entreprises et leurs start-up et leurs start-up nation. Ouais, j'étais plié en deux de rire. Et beaucoup de jeunes maintenant se rendent compte, c'est pas ça. Ils veulent pas entendre parler de la start-up nation. Ils veulent entendre de faire pousser des carottes, avoir un chien, éventuellement pouvoir aller à la chasse ou à la pêche de temps en temps, et pouvoir, disons, discuter avec des copains, se réunir, etc. Et pas être harcelé sans arrêt par Internet pour leur dire il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Voilà. Mais c'est des réflexions de bon sens, excusez-moi, mais on les entend pas trop, et en tout cas c'est pas mis en évidence non plus.
Merci Jean-Pierre.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.